Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, la CAQ remporte les élections et forme un gouvernement majoritaire. Les dirigeants d'Hockey Canada sont questionnés par les parlementaires. Elon Musk veut de nouveau racheter Twitter. Et un candidat pro-Trump est dans l'embarras.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Alors, c'est fait. La CAQ, comme le prédisaient les sondages qui ont remporté les élections, forme un gouvernement majoritaire. Et vraiment, ça n'aura pas pris beaucoup de temps hier, Mario, là, toi qui étais à l'émission spéciale non, là, de LCN.
Je veux dire, les gens qui s'étonnent que ça soit sorti si vite, parce que les sondages se trompent. Là. Oui, je comprends, les sondages se trompent des fois de 2-3 % 4-5 %. Des fois, ça peut aller jusqu'à 6, mais ils se trompent pas du 2 pour 1, là. Tu sais, dans les sondages de la CAQ chez les francophones, c'était même du 3 pour 1. Fait que, tu sais, on se doutait bien. Il fallait attendre d'avoir des résultats. C'est sûr que si les premiers résultats qui étaient sortis avaient contredit complètement les sondages, probablement que nos patrons là qui font le l'appel là, du gagnant auraient mis ça sur pause.
Ouais.
Mais ils ont des modèles mathématiques. Puis dès que les résultats rentrent conformément à ce que tous les sondages de toutes les firmes démontrent depuis des semaines, ben là, à un moment donné, c'est 1 plus 1 égale 2. CAQ ouais. Majoritaire, puis je veux dire, tu sais que tu te trompes
pas. Ça a pris 8 minutes, très exactement.
Oui, mais il est rentré parce qu'il y avait du vote qui avait été compté par anticipation. Il y a des votes, donc rapidement, là, on avait des résultats dans je sais plus quoi, 25-30, comme je me souviens plus, mais tu sais, en bas d'écran, c'est apparu dans plein de comtés, et ça apparaissait pour la CAQ. C'était tout à fait conforme dans les comtés prévus, tout à fait conforme au modèle des sondages. Fait que ce que tu voyais, c'est comme des morceaux de casse-tête. Là. Tu vois que les morceaux de casse-tête rentrent exactement dans le portrait que tu t'étais fait. Fait que tu te dis, ben regarde, c'est ça qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on prévoyait qu'il allait arriver, et la CAQ est majoritaire, puis c'est ce qui est arrivé aussi. C'était un petit peu plus long avant de dire qu'il allait former l'opposition officielle, parce que oui. Là, c'était un peu plus serré, quoique rapidement, on a vu les comtés libéraux retomber au Parti libéral, puis c'est devenu clair, là,
oui.
Mais peut-être une demi-heure après, ou je sais pas, 40 minutes après.
Parce qu'en termes de vote populaire, effectivement, les pourcentages sont encore assez rapprochés. Hein, d'ailleurs, ce qui a soulevé quelques questions aujourd'hui, qui ont été rapportées, entre autres, ben, par plusieurs chefs des partis d'opposition. Mme Anglade a fait élire 23 députés, 10 pour Gabriel Nadeau-Dubois.
21.
Québec solidaire. 21.
21 Parti libéral.
21 Parti libéral. Ouais, ça s'est rectifié, c'est vrai, aujourd'hui, parce que il y a Verdun et Fabre, entre autres.
Qui ont changé durant la nuit,
c'est bien vrai. D'ailleurs, on n'écartait pas un recomptage au départ du côté
Il y avait une histoire, là. Faut faire attention. Ça compte toute la nuit, toute la soirée. Je veux dire, là, durant la nuit, les libéraux disaient qu'il y avait eu un mélange ou quelque chose de suspect avec les boîtes dans Verdun. Ils perdaient Verdun
par 461
votes. Or, finalement, parce que le lendemain, là, ils retournent au bureau du directeur du scrutin, à tête reposée, des fois avec un avocat présent. Là, on recompte toutes les enveloppes, les votes, on réadditionne avec
parce
la calculatrice.
Parce que la soirée électorale, c'est quand même un sprint. On veut donner les résultats le plus rapidement possible.
Puis, Alexandre, soyons francs, là, c'est des êtres humains. Ils sont rentrés, là, les gens qui travaillent au pôle, là, au bureau de vote. Ils sont rentrés à 8h à 8h30 le matin. Ils sont rentrés pour pouvoir ouvrir, être tout prêts avec leurs papiers, puis à 9h30.
Puis ils sortent de là à
minuit, 1h. Puis là, à la fin, mais là, ils retranscrivent, ferment l'enveloppe des votes.
Il y a du café qui se boit dans les bureaux électoraux.
Fait que c'est pour ça. Puis là, à un moment donné, là, les gens des partis viennent énerver. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Fait que tu sais, c'est pas surprenant que tu dises, Gabin, là, demain matin, on va se revoir. Et donc, ce que je comprends, c'est que les libéraux, aujourd'hui, en regardant tout ça dans Verdun, ils ont fini par constater qu'il n'y avait pas vraiment rien d'irrégulier ou pas vraiment rien qui leur permettait de remettre en question. Donc, ils ont émis un communiqué tout à l'heure pour dire, bon, ben, on reconnaît le résultat dans Verdun.
Parce
donc,
que
victoire
très...
pour QS, Québec solidaire.
Québec solidaire, oui. Alejandra Zaga-Mendez.
C'est la présidente du parti, doctorat en sciences de l'environnement, etc.
Exact, qui va devenir donc la députée de Verdun. C'était très serré, à moins de 500 voix, qui la séparait d'Isabelle Melançon, qui était la candidate
et qui a travaillé fort pour sauver son comté, Mme Melançon. Mais il en a manqué quelques centaines.
L'autre qui était très serré, c'est Fabre, hein, juste à côté, la candidate libérale, elle aussi, qui a perdu, cette fois-ci, par 302 votes contre la candidate caquiste qui était en place.
Donc, et là aussi, le Parti libéral a dit pas de recomptage. À ma connaissance, il y a peut-être les conservateurs dans Beauce-Nord. J'ai pas vu de réponse finale. Cette nuit, ils disaient, on pense un recomptage.
Parce que c'est extrêmement serré.
200 d'écart, c'est pas beaucoup.
Et surtout, l'enjeu est encore plus important pour Éric Duhaime, qui, malgré quand même là, un bon près de 13% du vote populaire, n'a pas de siège, non. Ne sera pas représenté à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ça a soulevé toutes sortes de... Donc, d'avoir un siège dans Beauce-Nord, un, ça pourrait peut-être permettre à Éric Duhaime ou à un autre député de siéger, lui donnerait accès à la tribune de presse également à l'Assemblée nationale. Mais ça a fait poser toutes sortes de questions, évidemment, aujourd'hui, sur le mode de scrutin, hein, thématique qui revient souvent après les élections, surtout lorsqu'on s'aperçoit qu'en pourcentage de vote populaire, par exemple... On va voir le Parti libéral du Québec, qui est quatrième dans le pourcentage de vote, même si c'est très serré, et pourtant qui forme l'opposition officielle et a 20, en haut de 20 sièges. Ça fait se poser des questions.
Et aux gens qui se demandent comment c'est possible, là, je suis obligé de vous répondre, c'est que comment le parti qui finit quatrième au vote peut avoir 21 sièges, c'est que le vote libéral est très, très concentré. Comme on a toujours, vous allez me dire, a toujours été concentré dans l'ouest de Montréal.
Oui.
Mais là, ils ont leurs 21 sièges. Mais ailleurs, écoute, quand tu sors de Montréal, tu t'en vas dans les banlieues, puis tu t'en vas dans les régions,
tu t'en vas dans l'est du Québec.
On n'a jamais vu ça. Ils finissent cinquième d'abord. Dans 63 comtés, je pense qu'ils finissent cinquième et dernier. Mais avec des 2%, 3%. Par exemple, à Berthier, comté de Berthier, 2%. Comté de Joliette, 3%. Comté de Chicoutimi, 3%. Comté de René-Lévesque, la Baie-Comeau, ce coin-là, 2%. Rivière-du-Loup, 4%. Non, mais c'est pas juste pour faire sortir le vote. Et là, j'entendais aujourd'hui les libéraux qui disent « Oui, il faut reconnecter avec notre base francophone. » Puis tout ça, puis t'es porté à dire...
Quelle base francophone?
C'est ça, les amis. Ça, c'était avant, là. Fallait vous reconnecter avec votre base francophone. Là, il y a plus de base. Il y a plus de monde. Il y a plus... Ils n'ont pas été capables de... D'abord, dans ces circonscriptions-là, souvent, ils ont présenté des poteaux. Ce qui a probablement fait que leur score est encore pire. Ils ont même pas pu trouver un vrai candidat local, là, comme on dit, une personne connue dans la région. Ouais.
Parce que parfois, tu envoies des candidats comme ça, poteaux.
Ben, un employé du parti qui va se présenter. Il est même pas originaire de là. Il connaît même pas le comté.
Mais c'est pour avoir une présence dans toutes les circonscriptions.
Pour dire qu'il y a quelqu'un sur le bulletin de vote. C'est ça, exactement.
C'est pour accumuler aussi des pourcentages de votes parce que c'est une autre conséquence, Mario, qui ressort également de tout ça, c'est que sur tous les candidats des libéraux qui étaient présentés, il y en a seulement 38 qui ont atteint le plancher de 15% des voix. Là, tu parles
plancher important parce que
ça rembourse 50% des dépenses électorales. Le directeur général des élections
exactement.
De la circonscription qui va donc rembourser la moitié de votre campagne électorale. Et pour les partis, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ça prend ce 15%-là de voix. C'est entre autres pour ça qu'on va présenter.
Combien de comtés ont 15% les libéraux?
En soi, 38.
C'est fou.
Candidats seulement.
Il y en a gagné 21. Il y en a gagné 21, puis il y en a seulement 17 autres où ils ont 15%.
C'est fou. Et
donc, quand on dit le vote libéral est efficace, c'est-à-dire que dans tous les autres comtés, dans 80 quelques comtés, 87 comtés, ils ont même pas... 15%.
Non, et donc ils ont pas fait leur dépôt et ça va s'annoncer comme une année catastrophique. Déjà qu'en 2018, il y avait 39 circonscriptions qui n'avaient pas été rentabilisées à 15% comme ça pour les libéraux et on parlait d'une année catastrophique. Là, il y en a 87 cette année. C'est assez fou. Merci surtout que le Parti libéral a des problèmes pour une des rares fois de financement cette année.
Ils ont dû réhypothéquer, bâtiment exactement.
Sur des immeubles et qu'on a de la difficulté puis après ça, on parle là, en ce moment ni plus ni moins qu'une chute de 10% des revenus par rapport au dernier mandat du Parti libéral du Québec. À voir, ça va affecter le déroulement de leurs opérations. Mais clairement, on parlait d'une désorganisation dans la campagne, dans le financement aussi. Il y a du chemin à faire pour Mme Anglade.
Ouais. Puis La question qui se pose pour elle, c'est va-t-elle être contestée comme chef, là? Compte tenu de son faible pourcentage, compte tenu que le Parti libéral est passé quatrième dans les intentions de vote au Québec. Moi, ma réponse, c'est elle s'est donné un argumentaire. En étant réélue dans son comté, en gardant la position officielle, en gardant plus de 20 sièges, elle s'est donné un argumentaire pour dire au parti, gardez, là, moi, j'ai sauvé le parti, j'ai sauvé les meubles, grâce à ma campagne énergique, grâce à mon quotidiennement, ma présence dans les débats, etc. Elle s'est donné un argumentaire. Ça veut pas dire qu'il y aura pas du grenouillage. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des gens qui vont dire, voyons, Dominique Anglade, là, voyons donc, a mis le parti dans le pire, c'est le pire résultat de l'histoire du Parti libéral. C'est aussi le pire résultat de l'histoire du PQ, là. Paul Saint-Pierre Plamondon a eu un succès d'estime, a réussi à se faire élire dans son comté, a réussi à, jusqu'à un certain point, à remonter le PQ qui était en bas de 10% au déclenchement, à le remonter à 15% hier, devant les libéraux.
Ouais, absolument.
Mais le PQ a été fondé en 1968. Dès 70, donc à 2 ans après la fondation, ils ont obtenu 7 sièges, 23%.
Ouais.
Okay. Donc hier, c'est le pire résultat depuis... Tu dis même quand le PQ était un nouveau parti, il a fait mieux que ça. Là.
Ouais.
C'est le pire résultat de l'histoire en pourcentage, 15%, ouais. Et en siège, 3. Les deux chiffres, c'est le plus petit de l'histoire du Parti québécois depuis 1968.
Seul point positif, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon va faire son entrée, lui, à l'Assemblée nationale. Donc, il a été élu dans sa circonscription. Faut dire que ça a aidé que la candidate de Québec solidaire ne puisse plus participer depuis que tout ce petit scandale qu'il y avait eu.
Mais
au
sujet
des tracts.
Mais il a gagné par une bonne marge. Je me pose quand même la question. Moi, j'ai regardé le résultat hier, puis je me dis, il aurait peut-être gagné quand même. S'il avait gagné par 33 votes, je te dirais, là, il a été sauvé des eaux par la candidate de Québec solidaire. Mais là, est-ce que... Tu sais, moi, je pense qu'il y a bien des gens de Québec solidaire qui sont peut-être restés chez eux. Est-ce qu'il y en a qui sont quand même allés voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Peut-être un peu. Mais j'ai de la misère, moi, à affirmer qu'il a gagné juste à cause de ça. Mais c'est sûr que celle-là, pas de doute que celle-là a aidé. Donc ça va être à suivre. Donc le Parti québécois qui se retrouve avec 3 sièges, un peu éparpillés, un aux îles de la Madeleine. Matane, ouais. Évidemment, le comté de Pascal Bérubé.
Oui, Pascal Bérubé qui a sauvé les meubles encore, les îles de la Madeleine,
ouais,
Joël Arsenault aussi. Mais vraiment, ça, à voir comment ils vont se débrouiller pour rester, là, dans l'actualité, faire bonne figure. Autre point positif aussi de ces élections, nombre record de femmes élues.
Oui.
Cette fois-ci, il y a 60 femmes, là, on dit hier soir, c'était 58, dernière fois, c'est 58, dernières élections. Et donc, là, beaucoup de femmes qui ont été élues. C'est un sommet historique. Déjà qu'il y avait 49% des candidatures en tous des partis qui étaient des femmes chez les 4 principaux partis, excluant le Parti conservateur. Donc, une belle année quand même.
Mais l'avancée des femmes, c'est étonnamment, là, c'est parce qu'on dit que c'est le Québec solidaire qui prend. Le Québec solidaire est rendu avec 7 hommes, 3 femmes dans son, 4 femmes dans son caucus avec Mme Mendes. Mais c'est la CAQ là, qui a présenté... Parce que la CAQ font pas d'investiture. Parce qu'eux, à la CAQ, il n'y a pas de... Tu sais, des investitures de comté que les membres qui votent, ils ne s'encombrent pas de ça. Il n'y a pas
non,
vraiment...
Non.
C'est le chef qui choisit le candidat.
Absolument.
Point final.
Ouais.
C'est de même dans la constitution du parti. Les membres s'en plaignent pas, sont habitués que c'est de même.
Ils présentaient 69 candidates, c'est 55% de leur cohorte.
Donc, et toutes les candidates vedettes, les candidates ministrables, etc., c'était... Tu regardais les nouveaux visages des femmes. Il y avait quelques hommes à travers, Bernard Drinville, mais des femmes.
Absolument.
Et donc,
ministrable, tu poses une bonne question, Mario, aussi, parce que ça risque d'être le beau problème sur les bras aussi de la coalition Avenir Québec dans les prochaines semaines.
Il y a quelques noms. Mme Aitayan à Laval des Rapides qui a été élue hier. Retenez ce nom. C'était une haute placée chez Ubisoft, bien connue dans le monde des affaires. Devrait se retrouver. Elle est à Laval en plus. Donc, c'est proche. Elle est sur le bord de la rivière, là, face à Montréal. Donc, on veut montrer qu'il y a une présence montréalaise. Il y a dans Duplessis, là, à Sept-Îles, Mme Catherine Champagne-Jourdain. Un nom à retenir aussi qui risque d'avoir peut-être sa place au Conseil des ministres. Donc, on a quelques femmes comme ça. Madame Bélanger, Sonia Bélanger, qui était la présidente du CIUS Centre-Sud à Montréal, élue dans... Elle a pris la place de Marguerite Blais dans les Laurentides, dans Prévost.
Ouais,
ça aussi,
donc,
à mon avis.
Il y en a des belles candidatures.
Oh, puis là, je les nomme pas toutes. Ça, c'est quelques-unes des nouvelles arrivantes qui risquent d'avoir leur place au cabinet. On n'a pas parlé de Québec solidaire. Pour
non.
qui... Verdun, là, cette victoire que tu nous as décrite tout à l'heure, ça leur prenait, parce que c'est leur seul, que l'élection est décevante pour Québec solidaire, mais c'est leur seul pas en avant, là, c'est leur seul...
Gagné Maurice Richard également.
Oui, mais ça les ramenait à 10.
Ouais, parce qu'ils ont perdu.
Parce qu'ils ont perdu Rouyn-Noranda et Témiscamingue.
Ouais.
Donc, en gagnant Verdun, là, quasiment au recomptage, en tout cas, dans la nuit, ils ont, ça permet de dire on a 11 sièges, donc on est passé de 10 à 11, donc ils ont un progrès.
Oui.
Parce qu'en nombre total de votes, en pourcentage de votes, c'est un petit recul, pas gros, quasiment un statu quo, mais un petit recul.
Ouais, un moment où toutes les oppositions, disons, se sont,
oui, sont frappées par, la, oui, par la vague de la CAQ. Donc, ça permet à Québec solidaire de dire, mais regarde, là, c'est pas un gros saut en avant, mais on avait 10 sièges, on en a 11. Donc, oui, on a avancé. Et donc, ce siège-là était important pour eux, mais il y a quand même quelque chose dans le... Je regardais, par exemple, un peu partout en région, en banlieue, hors Montréal, puis hors des villes universitaires. Il y a 4 ans, Québec solidaire avait quand même fait de bonnes figures, se plaçait à quelques endroits, bon deuxième, etc. Beaucoup moins cette fois-ci. Là. Se sont fait dépasser par les conservateurs d'Éric Duhaime à des endroits, dépasser par le PQ à beaucoup d'endroits. Alors, c'est pas une si bonne élection pour Québec solidaire. Disons, c'est moyen, là. C'est ordinaire. Ouais. À Montréal, ils sont bien implantés, ils l'ont prouvé.
Mais idéologiquement, mais... peut-être, Mario, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait tout un travail pour tenter de démontrer que Québec solidaire s'est recentré, si on veut. Ils ont longtemps eu l'étiquette d'être beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus marginaux dans leurs mesures.
Ouais, c'est recentré, mais... On dirait qu'il reste une méfiance. Avec les taxes oranges, là, la CAQ leur a remis une étiquette dans le front d'un parti un peu radical à gauche. Donc, il y a des questionnements, il y a du travail. Et il y a aussi, à mon avis, le thème de l'environnement au Québec solidaire va devoir se poser des questions. Pas abandonner le sujet, là, c'est là.
Au contraire, dans l'opposition, ils doivent pousser beaucoup.
Mais c'est sur le comment, là. Tu sais, le ton très partisan quand on parle d'environnement, puis dirons-nous, on fait que c'est une cible de 55%, on est plus vert que les autres. Peut-être que ça marche auprès des étudiants, mais j'ai l'impression que dans le reste de la population, il y a quelque chose où les gens écoutent plus, et que ça serait peut-être plus intéressant pour Gabriel Nadeau-Dubois d'être plus concret, de trouver des solutions en matière d'environnement, comment on fait mieux le recyclage, la gestion des déchets, travailler avec les municipalités, travailler avec des entreprises, avec des experts, arriver au Parlement avec des solutions, pousser sur le gouvernement pour les mettre en place. Mais il y a un côté théorique, là, de dire « Ah, moi, je suis plus vert que les autres. » Je regarde les résultats de l'élection, puis je me dis ça semble avoir marché là, dans une clientèle assez restreinte de jeunes et d'étudiants. Dans le grand public, là, c'est comme si ça passait un peu dans le beurre.
Tout savoir en 24 minutes.
Sur la scène fédérale aujourd'hui, c'est les dirigeants et la dirigeante d'Hockey Canada qui étaient devant le comité parlementaire, le comité qui évalue évidemment là, les réactions d'Hockey Canada au lendemain où on a appris qu'il y avait un autre fonds qui pouvait servir potentiellement à payer, rembourser, cacher des scandales d'abus sexuels au sein d'Hockey Canada. Et c'est la nouvelle présidente par intérim, Andrea Skinner, entre autres, qui, elle, s'est exprimée devant ce comité et elle a fait toute une description des médias qu'elle accuse de partager des fausses informations, dit que c'est de la désinformation ce qui est fait du côté médiatique, que les reportages sont cyniques, que ça décrit pas une situation qui est réelle, ce qui a même poussé un député libéral à dire qu'elle faisait du Trumpisme. Vraiment, on dirait que, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que Hockey Canada prenne enfin action, fasse table rase, ben non, on s'enfonce encore, Mario.
Non, mais il y a un mur, là. Il y a un mur entre les députés, tout parti confondu, et Hockey Canada. Il y a un mur entre, ben, sûrement, ce que les médias voient et ce que les médias révèlent. Elle dit que le Globe and Mail a sorti hier sur l'existence d'un deuxième fonds. En fait, elle dit pas qu'il n'y a pas de deuxième fonds. Elle dit qu'il n'a pas servi à des cas d'agression ou d'abus sexuels. Donc, je comprends le député qui a voulu dire, bon, là, c'est ça, elle commence à crier aux fake news. Mais il y a un fossé. Et le problème d'Hockey Canada, c'est que moi, ce fossé-là, je le vois aussi avec les organisations locales.
Oui.
Hier, moi, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un qui s'occupe de hockey, du hockey mineur à Granby au Québec. Donc, une association où les jeunes s'inscrivent, puis une partie de leur coût d'inscription s'en va pour Hockey Canada. Là,
qui chapeaute toutes les grands.
Il y a une tranche qui s'en va à Hockey Canada. Et là, eux ont perdu confiance. Là. Les parents ont perdu confiance. Là. Les associations régionales ont perdu confiance. Donc, t'as perdu la confiance.
C'est dommage pour le sport. Mais c'est tellement dommage.
Ils sont tout seuls sur leur île déserte à dire tout est correct. Là. Tout le monde autour, autant le monde du hockey, le monde politique, les commanditaires.
Oui, qui ont débarqué, puis l'argent, débarqué. Ben, c'est le nerf de la guerre dans cette histoire-là.
Fait qu'eux, ils sont tout seuls sur leur île, puis ils disent, nous autres, sur l'île, ça va bien. Ouais.
Pas sûr que ça va si bien que ça.
Le reste de la société semble pas voir ça, là.
Économie.
La saga Elon Musk et Twitter se poursuit aujourd'hui après là certains revers, on se souviendra, avaient proposé au début de l'année d'acheter Twitter à $54.20 de l'action, puis ensuite avait fini par se reculer cet été en disant qu'il y avait trop de bots, hein, ces fameux robots sur Twitter.
En fait, trop de faux comptes en général. Comptes inutilisés ou de comptes qui... C'est parce que là... La valeur de Twitter, c'est le nombre d'abonnés.
Absolument.
C'est le nombre, parce que quand tu vends de la publicité, ben tu dis ces abonnés-là, c'est des yeux qui passent sur ta publicité. Mais les faux comptes, ça achète pas beaucoup de, ça achète pas beaucoup d'autos, ça achète pas beaucoup de logiciels. Là.
Exact. Et à la suite de tout ça, Twitter avait poursuivi Monsieur Musk. Hein? Il y a un procès qui est censé s'ouvrir dans 2 semaines d'ailleurs par rapport à tout ça. Et 2 semaines avant le procès, miracle, Elon Musk aujourd'hui qui dit qu'il va finalement aller de l'avant avec sa proposition d'achat au prix
qui est à nouveau prêt. À payer $54, qui est revenu à son $54 par action.
Exactement, c'est 44 milliards de dollars en tout et partout, cet achat-là qu'il pourrait faire. Ça pourrait se concrétiser selon le Bloomberg, qui a sorti la nouvelle aujourd'hui vers la fin de la semaine. C'est quand même ironique qu'on sait qu'hier, M. Musk a fait une publication qui est devenue assez impopulaire, merci, sur l'Ukraine, entre autres, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et il avait lui-même réécrit par la suite que, les résultats du petit sondage que j'ai fait, ça paraît qu'il y a beaucoup trop de bots. Puis beaucoup trop de faux comptes qui sont venus liker tout ça. Le lendemain, surprise, surprise, Monsieur Musk n'a plus l'air de trop s'en soucier de son côté. Donc, on verra si la transaction va aller bien aller de l'avant. Sinon, ben, le procès est censé durer du 17 au 21 octobre prochain.
Mais c'est toujours intéressant de voir, parce que bon, lui, il offre 54$ l'action. Fait que tu te dis, ben, en bourse, là, techniquement, là, l'action, elle devrait être à 54$ ou à 53,99$, si tu penses que ça va valoir ça, tu sais. Or, aujourd'hui, l'action, j'étais en train de chercher, était...
Elle a augmenté beaucoup, le titre s'est envolé. Ben,
52, là, tu sais, 52. C'est-à-dire que le marché, il croit pas complètement, là. Le marché se garde un... dire, ouais... Pas sûr que ça va avoir lieu, là, tu sais.
Ouais, mais si... ça fait quelques fois, là, que M. Musk avance, recule, avance, recule. Est-ce que finalement, il va y aller de l'avant? Ça se pourrait d'ici la fin de la semaine, mais surtout, la prochaine question qu'on va se poser, c'est sur la liberté d'expression, ni plus ni moins. Elon Musk a promis, lui, de ramener les Trump de ce monde, entre autres, sur le réseau social. Quel impact ça aurait, entre autres, là, sur les élections américaines, sur la politique en général, sur les théories du complot aussi? Ben, c'est quelque chose qui reste à voir. Donc, s'il achète
parce que
Twitter
Trump,
ou pas.
Parce que Twitter a discipliné ça un peu, là, ce qui les a amenés à mettre dehors Trump au moment où ils disaient qu'il avait gagné l'élection, ce qui était une fausse nouvelle, et au moment où ils ont considéré qu'il propageait, autour de sa victoire de l'élection, il propageait des messages à caractère violent. Là.
Dans la campagne américaine, justement, en ce moment, il y a un des candidats à des élections qui vont avoir lieu en novembre, élections législatives, donc de plusieurs sénats aux États-Unis. Et l'ancienne vedette de football, le républicain Herschel Walker, 60 ans, qui, lui, se présente dans l'État américain de Géorgie, c'est un candidat au Sénat extrêmement pro-Trump, fait plusieurs messages en compagnie de M. Trump lui-même. Il est très connu également pour ses positions anti-avortement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un média, le Daily Beast aux États-Unis, qui a révélé qu'il a financé une interruption volontaire de grossesse, donc un avortement d'une de ses ex-compagnes qu'il aurait payé donc pour qu'elle aille se faire avorter. C'est cette ex-petite amie-là elle-même.
Là, maintenant, il voudrait faire emprisonner les gens qui payent pour un avortement.
Ah oui, et lui, ça va plus loin que ça. Le même dans les cas de viol ou d'inceste, lui ne voudrait jamais qu'il y ait l'option de pouvoir avorter pour les femmes. Donc, il est très, très anti-avortement. Et son ex-petite amie, preuve à l'appui, là, a envoyé au Daily Beast, entre autres, ben des images de la transaction monétaire que lui a envoyé, un transfert bancaire, même une des photos d'une carte qu'il lui aurait envoyée par la suite, comme une petite carte « Repose-toi bien, j'espère que tu prendras du mieux ». Donc, il y a des preuves là, matérielles qui ont été fournies. Et tout ça tombe, après ça, lorsqu'il a réagi sur Twitter pour décrire tout ça, il y a son propre fils, Christian Walker, qui s'est mis à le critiquer de manière virulente en disant « T'as jamais été là pour tes enfants, t'es un menteur pathologique, ne fais pas comme si tu étais cette grande figure morale ». Déjà, Herschel Walker lui était accusé, entre autres, de violence conjugale, reconnu qu'il a eu 3 enfants hors mariage depuis le début de sa campagne. Disons qu'aujourd'hui, c'était pas vraiment une bonne journée de campagne pour lui. Et en terminant, Mario, dans le monde du sport, l'Arabie Saoudite a été désignée pour recevoir les Jeux asiatiques. Les Jeux asiatiques d'hiver, Mario.
Ah ouais?
Oui, oui. Les Jeux asiatiques d'hiver de 2029.
Y a-t-il beaucoup de neige en Arabie Saoudite?
Ben, c'est évidemment pour ça que cette nouvelle-là fait réagir. Ça va avoir lieu à Neom, qui est cette espèce de future mégapole qu'ils veulent construire, future mégapole futuriste, ni plus ni moins, en plein milieu du royaume désertique. Donc, ils veulent construire un énorme complexe gigantesque pour faire de la glace, de la neige à l'intérieur. Un projet qui vaut des centaines et des centaines de milliards de dollars. Il va y avoir du snowboard, du ski, du hockey sur glace.
Il
va y
avoir un peu d'argent du pétrole là-dedans. Là.
Exactement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent du pétrole qui va être investi là-dedans parce qu'on se rappellera. Il fait 40 degrés habituellement dans ces régions-là, en Arabie Saoudite. Et en plus, mais le régime est évidemment critiqué pour ses violations des droits humains. Donc, à voir, ça va bel et bien avoir lieu, mais surtout à quoi ça va ressembler, cet énorme complexe-là.
Mais il y aurait quelque chose de... Un film de science-fiction, là, d'avoir des jeux d'hiver...
Faire du ski, du snowboard...
En plein milieu du désert, quand il fait 40 degrés à l'extérieur.
Ça serait spécial, disons-le comme ça.
À suivre. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.